Je vais donc faire rapidement une micro-mini-introduction de Cécile Sarraille, qui est donc historienne, qui a fait donc un DEA, c'est bien ça, à l'histoire, justement sur les religions, si je me souviens bien.
Hein. Le protestantisme.
Sur le protestantisme. Voilà. Hein. Et qui, à l'heure actuelle, occupe un travail intéressant. Elle travaille donc pour la gestion des grands sites de l'Ariège, donc du parc préhistorique, du Mas d'Asile, de Saint-Lizier. Et donc, elle s'occupe de ces grands sites, et donc, elle est donc attachée à l'histoire. Je n'en dirai pas davantage, je vais te laisser la parole, et tu vas donc nous parler de la récupération religieuse des fêtes païennes ou l'usage chrétien du paganisme. Et ensuite, à la fin, je vous dirai le sujet de la prochaine conférence. Voici Cécile.
Bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend ? C'est plutôt pas mal, c'est un bon début. Donc merci à tous d'être là. Je vous avoue que je suis très très impressionnée. J'ai l'impression d'être un concert de rock ou je sais pas. Vous êtes très impressionnante de là où je suis. Donc comme le disait le président, historienne de formation, pas forcément hyper spécialiste du sujet. C'est des différentes lectures qui m'ont amenée à mettre en lien ces différents éléments. Donc soyez un peu indulgents au moment des questions et ne soyez pas trop précis sur des textes. Voilà, on va faire du mieux qu'on peut. On va commencer, du coup. Le grand public, s'il adhère à une religion, peut croire que son culte, sa morale, son art, ses fêtes ou encore ses rites de passage sont originaux, apparus avec son fondateur et n'ayant que des rapports assez ténus finalement avec les autres religions. Tout au plus apparaît une tendance générale à célébrer les fêtes à un même moment de l'année. Pourtant, ce domaine nous offre un bel exemple de ce que les historiens appellent syncrétisme, avec son métissage des dieux, mais également des rites et des pratiques. Sans prétendre apporter des éléments insolites ou autres scoops, l'objet de cette modeste communication est de mettre en lumière comment on a pu donner une signification nouvelle à des éléments anciens, de voir comment se sont produits les glissements de contenu, tout en gardant les mêmes dates et parfois les mêmes symboles. En clair, comment s'est faite la réinterprétation culturelle des fêtes païennes par le christianisme. Pour la clarté de l'exposé et compte tenu du temps dont je dispose, je n'ai sélectionné que quelques grandes fêtes dont la notoriété, les symboles sont encore largement ancrés dans notre quotidien. Donc vous n'attendez pas à voir la petite fête chrétienne très peu connue et très peu célébrée, on va faire du grand public. Donc toutefois, avant de rentrer in media res dans le vif du sujet, il me semble important d'introduire mon propos en parlant de l'utilité qu'ont les fêtes pour les hommes et pour l'humanité en règle générale. Ouais, on est au point. La fête possède des règles et une logique propre que l'on retrouve dans un grand nombre de sociétés. Depuis toujours, l'humanité est consciente de la régularité des cycles qui régissent le monde et la vie, et toutes les sociétés semblent avoir institué des fêtes en lien avec cette observation universelle. Qu'il s'agisse de fêtes cycliques, liées à la course des planètes, principalement au moment des équinoxes et des solstices. Ah non, vous êtes allé trop vite là.
Ah, pardon.
Là, par contre, j'y vois plus trop. Oui, merci.
Oui, je reviens encore.
Voilà, les équinoxes, on en est là. Donc, il s'agisse de fêtes cycliques liées à la course des planètes, notamment au moment des équinoxes ou des solstices, de fêtes calendaires qui ont lieu un jour fixe et ont pour fonction la commémoration d'événements importants dans l'histoire d'une communauté, ou de fêtes liées à l'observation de la nature, elles servent, les fêtes donc, par leur retour ponctuel à rythmer le temps et permettre d'établir un calendrier, d'où leur importance pour les hommes. En outre, la fête donc, qui rythme le temps, qui passe, a aussi des fonctions sociologiques fortes et elle apparaît alors comme un ciment communautaire. Hop, notre clic. Une première fonction de la fête est de favoriser la cohésion et l'homogénéité du corps social. Elle renforce ainsi, symboliquement, le sentiment d'appartenance à un groupe. Toute fête se caractérise en effet par un rassemblement massif d'individus, mu comme en une pulsion par un besoin de se rassembler, de se réunir pour commémorer un même fait. Par l'organisation et la préparation des cérémonies, déjà, le consensus s'effectue autour d'une mémoire commune de la fête qui se répète chaque année. La fête gomme aussi des fractures sociales, il n'y a plus ni acteurs ni spectateurs, mais un même ensemble de célébrants, tous associés aux mêmes formes rituelles, unis par un même sentiment d'appartenance. En outre, l'intensité de la fête croissant, les hommes perdent toute individualité pour se fondre dans la grande matrice universelle. Et s'il arrive parfois que l'on choisisse un bouc émissaire au moment des fêtes et qu'on le charge de tous les maux, c'est pour mieux purifier et fédérer la communauté derrière. Dans cette même sphère sociologique, la fête a aussi une fonction de conservation en transmettant de génération en génération les croyances et les mythes fondateurs du groupe. Elle permet ainsi de relier le présent au passé et d'inscrire les membres de la communauté dans une histoire qui les dépasse en tant qu'individus. On pourrait définir la fête comme un moment également de vie intense, en rupture complète avec la vie quotidienne. En interrompant le cours de celle-ci, la fête permet par son effervescence de justifier la banalité d'une vie tissée d'obligations. Et ces ruptures s'effectuent sur trois plans. Le premier plan qu'apporte la fête en tant que rupture, c'est une rupture dans le temps. La fête marque un retour à un temps originel, mythique, et en ce sens, elle est sacrée, et en ce sens, elle est vécue à la fois comme une abolition et comme une commémoration du temps. C'est également une rupture dans l'espace. Donc là, on parle de généralité, après on verra plus dans les détails quel type de fête on a à faire. Mais la fête donc offre une rupture dans l'espace où le monde réel et le monde imaginaire n'ont plus de barrières, où l'intérieur et l'extérieur de la communauté se confondent, où le monde divin et le monde humain sont parfois mis en relation, et où le monde des vivants et des morts sont parfois également mis en relation. La dernière rupture que permet la fête, c'est une rupture avec les normes du groupe. Si les fêtes de l'ordre existent, avec un conformisme, un double conformisme qui est la répétition dans le temps et la rigidité de leur déroulement, il existe également des fêtes qui renversent les mœurs et les règles en vigueur dans la société, ce qu'on appelle les fêtes à l'envers. Leur dimension transgressive a souvent été soulignée par les études anthropologiques. Au moment de la fête, donc l'ordre premier de la communauté est remplacé par un ordre inverse, et temporaire qui, loin de remettre en question la stabilité de l'organisation sociale, permet au contraire de la consolider. Ainsi, le chaos apparent est en fait strictement réglementé, et Freud développe cette thèse dans son ouvrage « Totem et tabou », où il dit que la fête est un excès permis, une violation solennelle de ce qui est d'habitude interdit en fait. Donc elle permet à l'individu et plus largement à la communauté entière de se libérer de ses pulsions que la société contrôle fortement en temps normal. On peut cliquer. Les différents aspects de la fête que je viens d'évoquer assez brièvement, c'est très, très raccourci, se retrouvent dans la plupart des célébrations dans le monde. Mais il serait incomplet de s'en tenir là. En effet, pour comprendre bien le sens d'une fête, il faut impérativement tenir compte de sa dimension politique. Les rapports entre la fête et le pouvoir sont connus depuis longtemps, et si nul n'ignore la subversion qui peut s'exercer lors de certaines d'entre elles, il est aussi opportun de rappeler qu'une célébration peut être instrumentalisée par le pouvoir lorsqu'elle est l'émanation d'une volonté municipale ou religieuse. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon, pourquoi les fêtes sont importantes pour les hommes, et ça vous permettra d'avoir un éclairage un peu particulier sur ce qui va suivre. Donc au moment où la chrétienté s'imposait comme une religion officielle en Europe, les traditions païennes se sont révélées très tenaces, en particulier dans les campagnes. Ne parvenant pas à arracher les racines du paganisme, l'Église chrétienne résolut donc de fixer ses dates aux dates des célébrations païennes, en espérant ainsi faire accepter plus facilement la nouvelle foi. Mais derrière les fêtes chrétiennes se profilent encore aujourd'hui, nous allons le voir, les traces des anciennes croyances. Alors, j'ai choisi de découper l'année en sélectionnant quelques fêtes, je vous l'ai dit, bien précises. Donc l'année sera découpée en deux parties, l'hiver et le printemps. Et donc pour chacune des fêtes, je vous donne des éléments de méthodologie pour peut-être mieux suivre mon propos. Donc on va parler de chaque fête avec, dans un premier temps, sa signification chrétienne, c'est celle qu'on connaît encore le mieux aujourd'hui puisqu'elle s'est transmise encore jusqu'à nous. et ensuite on verra les différents héritages antiques et païens que l'on peut retrouver dans cette fête. Et le troisième temps d'étude de chacune de ces fêtes passera par les symboles, puisqu'aujourd'hui on retrouve certains incontournables sans trop savoir quelles sont leurs origines. Donc on va commencer par la première, qui est Toussaint. Alors Toussaint se célèbre, comme vous le savez certainement tous, le 1er novembre et est suivi donc le 2 novembre par le jour des morts. Donc c'est une fête catholique et non chrétienne, en l'honneur de tous les saints du Panthéon, c'est-à-dire la communauté des vivants et des morts. En effet, le martyrologe comprenant plus de 40 000 noms et l'année seulement 365 jours, cette fête fut instituée par le pape Boniface IV en 609 pour célébrer en quelque sorte les oubliés du calendrier. Elle est appliquée en France et en Allemagne vers 835 par Louis le Pieux. Le lendemain de Toussaint, les catholiques célèbrent la journée des morts ou, je cite, « commémoration des fidèles défunts ». Elle marque le rassemblement de ceux qui sont et de ceux qui ne sont plus, dans l'espérance qu'à la fin des temps, les retrouvailles seront pour tout le monde définitives. Cette fête apparaît à la fin du Xe siècle en France, sous l'impulsion d'Odilon, abbé du grand monastère de Cluny, qui ordonne que dans tous les monastères qu'il dirige, une messe solennelle soit célébrée le 2 novembre. Par la suite, le pape Léon IX approuve cette décision et la commémoration des fidèles défunts se répand dans toute la chrétienté. Et c'est au XIIIe siècle qu'elle entre officiellement dans la liturgie romaine. Dès le 1er siècle avant notre ère, Rome connaît un culte très populaire qui est le culte d'Isis, qui est une forme romanisée de plusieurs cultes orientaux, évidemment des cultes égyptiens. Du 29 octobre au 1er novembre se déroule donc à Rome et dans différents pays d'Orient et en Égypte l'Inventio Osiris. Ce sont des jours de jeûne et de lamentation qui retracent le destin d'Osiris et la recherche par Isis du corps démembré de son époux. Alors peut-être qu'un petit point mythologie à ce niveau-là de la conférence s'impose. Je ne sais pas si tout le monde est familier du mythe d'Isis, d'Osiris et de Seth. Alors je ne vais pas vous faire lever les doigts, je vais me lancer dans mon explication. Donc Isis, Osiris et Seth sont frères et sœurs dans la mythologie égyptienne. Isis et Osiris, bien qu'ils soient frères et sœurs, se marient et obtiennent par héritage de leur père de la partie la plus prospère de l'Égypte. Il se trouve que Seth en nourrit une jalousie terrible et décide de se venger coûte que coûte de ce couple de frères et sœurs. Donc il défie son frère Osiris de rentrer dans une malle en lui disant « tu en seras pas, ça sera pas possible ». Osiris rentre dans la malle et Seth se charge de bien faire verrouiller la malle et de la jeter dans le Nil. Et ainsi Osiris meurt noyé dans les eaux du Nil. Donc Isis, inconsolable, part à la recherche de cette malle dans les eaux du Nil, finit par retrouver son mari, le pleure, l'enterre. Et on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Or Seth, qui a quand même la rancune coriace, décide de déterrer son frère, de découper en 14 morceaux le corps d'Osiris donc, qui est mort, et de à nouveau le rejeter dans le Nil. Donc Isis recommence sa pérégrination, donc je vous la fais très courte, hein, c'est bien plus complexe que ça, il y a beaucoup plus de péripéties. Donc Isis repart à la recherche des 14 morceaux du corps de son mari, qu'elle finit par retrouver, par enrubaner dans différentes bandelettes de façon à lui redonner une apparence humaine, donc ça vous rappelle certains rites funéraires égyptiens, et l'enterre. Et juste avant de l'enterrer, elle arrive par je ne sais quel miracle à lui redonner un souffle de vie, ce qui lui permet de concevoir leur fils, qui s'appellera Horus. Voilà pour le petit point mythologie. Donc lors de cette fête de Rome, donc on pleure effectivement la mort d'Osiris. Les festivités donc permettent de laisser éclater au grand jour les sentiments les plus vifs, la douleur de la mort d'Osiris, je l'ai dit, la joie, mais aussi la célébration de son pouvoir revivifiant. De nombreux rites funéraires finissent dans la joie quand le corps du dieu est retrouvé et ressuscité, Isis devenant par là même déesse victorieuse de la mort. Au fil du temps, une assimilation s'est faite entre les fêtes du dieu soleil, donc d'Osiris, et celles des empereurs romains, dieux de la cité. Et le 1er novembre devient alors progressivement la fête du César, donc de l'empereur en place à ce moment-là, et plus globalement de la fête de la ville de Rome. Plus tard, au 7e siècle, apparaît dans le calendrier un saint Césaire, patron de la ville de Rome, sans que l'on retrouve aucune trace historique, mais dont la légende a quand même gardé la notion de meurtre rituel. Donc là, on voit déjà qu'il commence à s'opérer un savant mélange de tout ça. Et donc le 1er novembre restera la Saint-Césarienne à Rome jusqu'au 16e siècle, malgré l'institution papale de la Toussaint. Donc voilà une des premières influences de la Toussaint chrétienne. Mais en vérité, Odilon, donc l'abbé de Cluny, et ainsi que de nombreux prêtres convertisseurs et du pape Grégoire IV, avaient le désir également de supprimer un ancien usage celtique, encore ouvertement pratiqué à la même époque. Pardon, j'ai oublié de faire le signe. Qui est la fête de Samhain. On sait très peu de choses sur la religion des Celtes, si ce n'est qu'ils divisaient l'année en deux grandes parties, l'hiver et l'été. Le 1er novembre était donc une date très importante, puisqu'ils fêtaient le nouvel an celtique, la moitié sombre de l'année, où la nature s'endort pour renaître plus tard. La fête de Samhain, qui signifie littéralement « affaiblissement » Vous avez été trop vite. Ou fin de l'été. Je vois, il y a tous les yeux qui se lèvent. Donc, la fête de Samhain, qui signifie affaiblissement ou fin de l'été, était donc une fête de passage, le départ d'une nouvelle gestation et le début de toute chose, notamment sur le plan mythologique où s'étaient produits de grands événements cosmiques pour les Celtes. Donc, cette fête durait une semaine. Donc, on avait 3 jours avant Samhain. Samhain et 3 jours après Samhain, et elle donnait lieu à des rassemblements, des jeux, des joutes, des cérémonies liturgiques et également d'importants festins où l'ivresse était de rigueur. Samhain était aussi la fête des morts, ou plus exactement de la communication entre les vivants et les morts. Ainsi, cette nuit-là, selon les récits mythologiques, les tombes étaient ouvertes et le monde visible et invisible pouvait communiquer. Les habitants de l'autre monde pouvaient donc faire irruption sur la surface de la Terre, et les humains laissaient à leur attention de la nourriture sur les fenêtres ou à l'extérieur, de façon à ne pas trop les côtoyer quand même. Et c'est également le moment où les humains pouvaient s'engager vice-versa dans le monde des dieux, des héros et des défunts, évidemment. Donc, croyant que les morts revenaient sur terre, on leur laissait, je vous l'ai dit, de la nourriture dehors, on allumait également des feux et l'on effrayait à grand bruit les mauvais esprits. Par ailleurs, une braise de ces feux qui était allumée au moment de Samhain était donnée à chaque famille pour que, dans chaque foyer, elle puisse protéger la maisonnée pendant la durée d'une année. Les druides, quant à eux, se déplaçaient de maison en maison et réclamaient des offrandes, en anglais « treat », pour leur dieu, et en cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort, en anglais « trick », qu'on retrouve pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, ou qui regardent la télé tout simplement, pour la fête d'Halloween. Donc les druides donc réclamaient des offrandes ou proféraient des malédictions de mort. Voilà, là on y est. Comme ils sévissaient de nuit, les prêtres de Samhain s'éclairaient avec des gros navets évidés et sculptés en forme de tête de mort ou brûlaient une bougie. Au XIXe siècle, les immigrants irlandais amènent cette coutume aux États-Unis et on remplace alors le navet par la citrouille qui est mieux adaptée à la sculpture macabre. Aujourd'hui, la fête d'Halloween est devenue dans le monde entier l'une des plus grandes fêtes commerciales. On le voit, le culte des morts est aussi ancien que l'homme. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on le retrouve déjà bien établi. Des générations primitives du globe envisageaient effectivement la mort non comme une dissolution de l'être, mais comme un simple changement d'existence. Ainsi, j'aurais pu vous parler ce soir des carènes des montagnes de Birmanie, qui offraient aux défunts de grands banquets, des nagas de la Sam qui apportaient à chaque lune des offrandes sur les sépultures, des anciens mexicains et du Dia de los Muertos, des Incas qui, lors d'une fête annuelle, installaient les momies des empereurs afin de présider aux grands banquets, ou encore, par exemple, des Égyptiens qui avaient 27 fêtes par an dans leur calendrier à l'attention des morts. Donc, hop, on peut changer. Comme on vient de le voir, on va passer maintenant au symbole. Et donc, comme on vient de le voir, le premier symbole qui nous vient à l'esprit quand on parle de Toussaint ou d'Halloween, c'est la citrouille. Donc, on l'a vu, elle est liée à la célébration de Samhain. Mais il est intéressant de voir que son histoire va aussi évoluer vers un syncrétisme, puisqu'elle est associée, avec plus le temps passe, à la légende de Jack aux lanternes, qui est un homme qui est obligé d'errer sur terre, parce que ni le dieu ni le diable ne veulent de lui. Et donc pour errer sur terre, il est obligé de s'éclairer, il se sert d'une citrouille. Donc là aussi, on a une première christianisation de cette tradition du navet évidé qui était la base utilisée pour Samhain. Autre symbole qui nous vient à l'esprit quand on parle d'Halloween, on va dire, ce sont les monstres, les masques et les déguisements. Donc j'ai traité ça dans un seul et même registre. La force des ténèbres qui était représentée par la force des ténèbres est représentée par une série d'esprits plus ou moins maléfiques. C'est là l'origine donc des différents monstres qui sont associés à Halloween, même si certaines figures comme celle de la sorcière sont évidemment apparues bien plus tard au moment de la christianisation. Les masques avaient donc pour fonction un peu tout à la fois. On utilisait des masques sans trop. Chacun un petit peu les utilisait à sa sauce. Soit on les utilisait pour effrayer les esprits, soit on les utilisait pour les apaiser, parce qu'on pensait qu'il y avait une sorte de mimétisme avec l'esprit, et donc on disait que si on ressemblait à l'esprit, on risquait rien, soit de s'en protéger. Donc là, les sources et les interprétations sont diverses. On va passer maintenant à la fête de Noël. Donc là, vous allez pouvoir briller très prochainement lors de vos réveillons, j'espère. Donc la fête de Noël est célébrée, comme tout le monde le sait, le 25 décembre. Noël vient du latin natale, qui signifie littéralement jour de naissance. 6 janvier, 25 mars, 10 avril, 29 mai, toutes ces dates ont, à un moment donné de notre histoire, été célébrées comme marquant la naissance du Christ. Avant que ne s'impose le 25 décembre, date qui apparaît officiellement au IVe siècle avec le chronographe romain de 354. Jusque-là, la liturgie primitive se concentrait plutôt sur la mort et la résurrection du Christ. Aucun document précisant le jour de naissance de Jésus, les chrétiens optèrent, après quelques tâtonnements, pour cette date, souhaitant par là contrer des fêtes païennes très vivaces, notamment celles qui avaient lieu pendant le solstice d'hiver. Une fête donc était célébrée à Rome en décembre et conduisait au solstice d'hiver. La fête des Saturnales était donnée en l'honneur du dieu Saturne, qui est l'équivalent du dieu grec Cronos. Chaque fois je fais les équivalences parce que parfois on le connaît sous un nom et parfois on le connaît sous l'autre. Donc Cronos ou Saturne, donc le dieu de la croissance, de la semence et du vin. Selon les récits mythologiques, Saturne est détrôné et devenu simple mortel. Il se réfugie alors en Italie, dans le Latium, où il rassemble les hommes barbares du territoire et leur donne des lois. Ce règne est appelé l'âge d'or, car ses paisibles sujets étaient gouvernés avec douceur et équité. Et donc c'est pour commémorer cet âge heureux que Rome fêtait les Saturnales, qui étaient célébrées pendant 7 jours, du 17 au 23 décembre. Les festivités étaient divisées en trois temps. Donc les deux premiers jours ont célébré les Saturnales directement, qui étaient donc dédiés au dieu Saturne. Ensuite, les trois autres jours suivants étaient célébrés aux Palia, qui étaient consacrés à la déesse Opis, qui était la déesse de la terre, mais également la femme de Saturne. Et enfin, les deux derniers jours ont célébré Sigillaria, qui marquait la fin des Saturnales. Donc à cette fin des Saturnales, les Romains avaient pris l'habitude d'offrir des cadeaux, en particulier aux enfants, avec des petits objets, des anneaux et des cachets. Cette fête des Sigillaires donnait lieu à des festins pour lesquels les maisons étaient décorées de plantes vertes. Les Saturnales, en lien direct avec les récits mythologiques, sont aussi des fêtes de la liberté et du monde à l'envers. C'est pour ça que l'introduction, je parlais de ces fêtes du monde à l'envers, où tout l'ordre habituel était remis en question. L'histoire donc raconte que Saturne se retourne contre son père Uranos et le castre d'un coup de faucille afin de libérer ses frères. Il n'en hérite pas moins de certains côtés de sa personnalité, puisque de crainte que ses enfants ne lui fassent subir le même sort, il les dévore tous à sa naissance. Seul Jupiter, connu sous le nom de Zeus, réussira à en réchapper. C'est pourquoi lors de ces fêtes, maîtres et esclaves échangent leur place, reprenant ainsi l'image du renversement du pouvoir. Saturne détrône son père, pour ensuite se faire renverser par son propre fils. Donc Saturne en ça est plus que tout autre le symbole d'un début et d'une fin et de la succession des règnes comme la succession des saisons. On a également dans la fête de Noël un héritage oriental. Via la domination romaine, un certain nombre de fêtes orientales pénètrent en Occident et le syncrétisme religieux ambiant accordait alors une large place à tout le monde. On l'a vu notamment quand on parlait du culte d'Isis et d'Osiris. Donc, venu de Perse, le culte de Mithra s'est répandu au IIIe et IVe siècle avant notre ère. culte à mystère, seules deux scènes de sa geste sont actuellement bien connues. Sa naissance d'un rocher ou d'une grotte sous la forme d'un enfant nouveau-né, qui ne sera pas sans vous rappeler certaines autres références, et sa tauroctonie. Mithra, dieu de la lumière, symbole de la chasteté et de la pureté, combattait les forces maléfiques et le solstice d'hiver du 25 décembre était la fête la plus importante de l'an mithraïen. On fêtait alors la naissance du Sol Invictus, si mes souvenirs de latin sont bons en prononciation, qui signifie soleil invaincu. Donc on fêtait cette renaissance par le sacrifice d'un taureau qui serait à l'origine de la vie, son sang fertilisant la terre. D'ailleurs, on raconte le mythe suivant, c'est qu'au moment du sacrifice de ce taureau, du blé jaillit de sa colonne vertébrale et de son sang apparaît le vin. Donc là aussi, on retrouve certaines références. Donc il est intéressant d'ailleurs de mentionner que plus tard, l'Église n'hésita pas à appeler le Christ Sol Invictus également. Enfin, le dernier héritage des fêtes de Noël se retrouve dans la mythologie scandinave. Yule est un moment de l'année où Heimdall, le dieu de la lumière et du feu, mais aussi le dieu du centre de la terre, donc Heimdall vit au pôle nord, et est situé à mi-chemin entre l'Asgard, qui est le monde des dieux, et le Midgard, qui est le monde des vivants. Donc Heimdall, ce dieu de la lumière, accompagné des As, qui sont l'équivalent des dieux de l'Olympe pour les Scandinaves, et qui sont apparentés à Odin, peut-être c'est une référence que vous connaissez. Donc Heimdall, donc accompagné des As, revient sur Terre à ce moment de l'année visiter ses enfants que sont les hommes. Et donc au moment de cette visite, il passe de foyer en foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant toute l'année. Yule est donc une fête où les hommes et les dieux se rencontrent, et c'est également un moment pour partager un repas bien arrosé et pour festoyer et chanter. À cette occasion, les préparations pouvaient commencer plusieurs semaines, voire des mois à l'avance. On croyait en effet que si au milieu de l'hiver, on pouvait réussir un si grand festin, l'abondance de nourriture était assurée tout au long de l'année. Des cadeaux étaient également échangés pour symboliser le retour à la richesse et à la joie. Yule est dérivé, donc qui s'écrit Yule, est dérivé du mot jule, qui signifie dans l'ancienne langue norse, qui est l'ancêtre du norvégien, on va dire, donc signifie littéralement roue ou bière. On voit un peu un côté ambivalent de la fête. Donc la roue image évidemment l'année qui tourne du printemps vers l'été et qui sans cesse continue est en renouvellement. Et bière, on sait effectivement que les fêtes du solstice d'hiver étaient l'occasion d'immenses beuveries nocturnes chez les peuples nordiques. Donc il est également intéressant de noter que, encore aujourd'hui, dans les pays du Nord, et malgré la christianisation, les fêtes de Noël se nomment encore Yule dans les pays scandinaves. Donc parmi les symboles de Noël, on est en plein dedans, le premier qui vient à l'esprit, c'est l'incontournable Père Noël. Donc son origine, tout au proche, viendrait donc de Saint-Nicolas, qui, selon la tradition chrétienne, naît vers 270 au Proche-Orient. Il est d'abord ermite, ascétique, vivant dans la solitude du désert, et sa vie de moine étant exemplaire, on décide de le nommer comme évêque de Myre, qui est en Turquie, le sud de la Turquie actuelle. Donc grand confesseur, convertisseur, il combat les païens et les hérésies. À sa mort, le 6 décembre 326, il devient un saint très vénéré, patron notamment des enfants et des fêtes de Noël. Il voyage à Doudane, porte une mitre d'évêque et est vêtu d'un long manteau rouge. Sous des aspects similaires, il est connu sous le nom de Sinterklaas dans les Pays-Bas et deviendra lors de l'immigration hollandaise des États-Unis Santa Claus. Avec le temps, ce saint Nicolas donc devient laïc, débarrassé de sa mitre et de sa crosse, et donc ce n'est ni un âne ni un cheval qui conduit, mais un traîneau avec 8 petits rennes. Au milieu du XIXe siècle, le dessinateur américain Thomas Nast lui donne cet aspect familier. Donc ça, c'est un dessin de Thomas Nast derrière moi. Lui donne cet aspect familier que nous lui connaissons aujourd'hui. Il l'imagine originaire de Finlande, ce que le pays ne manquera pas de récupérer avec grand plaisir. Au XXe siècle, il devient ensuite représentant de commerce pour la société de consommation américaine. Et la firme Coca-Cola contribue à le rendre populaire au-delà des États-Unis en l'utilisant dans ses publicités en 1930 puis en 1950 et encore aujourd'hui. et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il commence à devenir populaire en France sous le nom de Père Noël. Donc qu'il s'agisse de Saint-Nicolas, de Santa Claus ou du Père Noël, on parle du même bonhomme, on constate que chacun d'eux reprend les attributs des dieux bienfaiteurs des mythologies païennes. On a Gargan, un pays celtique, hein. Donc Gargan c'est un dieu celte, fils de Bel, qui porte déjà dans les mythologies une hotte, qui distribue déjà des cadeaux aux enfants, et il est intéressant aussi de savoir pour l'anecdote que Gargan a été repris par Rabelais pour en faire son Gargantua. Je vois que ça acquiesce, donc je ne dis pas trop de bêtises. Également, comme autre personnage mythologique que l'on retrouve encore un peu dans notre Père Noël actuel, c'est Odin. Odin, qui en pays germanique, est représenté comme un vieillard, bienveillant, à la barbe abondante, vêtu d'une houppelande rouge et voyageant dans l'air sur son cheval blanc à 8 pattes, qui donneront ensuite, par le temps aidant, les 8 petits rennes du Père Noël. Voilà pourquoi il y en a 8, en fait. Autre symbole des fêtes de Noël que j'ai traité dans un seul et même registre, c'est le houx, le lierre, le gui et le sapin. Là, on est sur de la sphère végétale. Alors, commençons par le houx. Pour les chrétiens, le houx est spécifiquement associé à la naissance de l'enfant Jésus. Le roi Hérode, cherchant à massacrer tous les nouveau-nés juifs pour éliminer celui qu'on annonçait comme le futur roi, Marie, Joseph et Jésus donc cherchent à s'enfuir. Et au moment de leur fuite, une troupe de soldats s'approche et ils se dissimulent derrière un buisson de houx qui, miraculeusement, étend ses branches de façon à les masquer complètement. Donc à la suite de cette anecdote, Marie bénit le buisson de houx et souhaite pour lui qu'il reste toujours vert en souvenir de cette protection et en symbole de son immortalité. Mais bien avant cela, on retrouve le houx dans de nombreux récits païens. Le houx et le lierre, d'ailleurs, sont associés dans ces récits et représentent symboliquement le mâle et la femelle. Le lierre s'accroche et s'enroule comme la femme, dixit les récits mythologiques, hein, alors que le houx est épineux et droit comme l'homme. Le lierre est sacré, d'ailleurs, pour le dieu phrygien Attis, mais également pour le dieu égyptien Osiris. On retrouve également le lierre dans les mystères dionysiaques, donc associés à Dionysos, sans toutefois savoir quel rôle précis il joua dans les célébrations du culte à mystère. Concernant le gui, on a tous lu Astérix, donc on a tous au moins cette référence druidique. Le gui, donc pour les druides, était considéré comme une plante sacrée, parce qu'il se répand et semble venir sur l'arbre sans l'intermédiaire du ciel, par l'intermédiaire du ciel et sans jamais toucher le sol. Il est en plus doté d'une incroyable longévité, symbolisant en quelque sorte la jeunesse éternelle. Cette plante a par ailleurs des propriétés miraculeuses, comme celle de guérir certaines maladies, d'immuniser les êtres humains contre les poisons et de leur assurer la fertilité. Selon une légende scandinave, le dieu solaire, donc ça c'est pour le côté celte on va dire du gui, pour les Scandinaves, le dieu solaire Balder, qui est le fils du dieu Odin, a été tué par une flèche fabriquée dans une tige de gui par un démon qui s'appelle Loki. Or, la mère de Balder, Frigga, implore les autres dieux pour son retour à la vie, et celui-ci donc devient le symbole de l'amour et du pardon. Donc son fils hein, qui revient à la vie, c'est peut-être pas clair. Donc quant au gui, à la suite de cette résurrection, il fut condamné à quitter la terre ferme et à monter dans les arbres pour ne plus jamais en redescendre. Ainsi, lorsque des ennemis se rencontraient sous le gui, dans la forêt, ils devaient déposer leurs armes et observer une trêve jusqu'au lendemain. C'est de là que proviendrait donc l'ancienne coutume de suspendre une boule de gui au plafond et d'y échanger un baiser en signe d'amitié et de bienveillance. Enfin, le dernier de ce triptyque, le dernier élément végétal qui est un symbole de Noël, c'est bien entendu le sapin. Le culte de la verdure au cœur de l'hiver est très ancien, et c'est la raison pour laquelle le sapin, dans la plupart des religions indo-européennes, était sacré, parce qu'il reste vert au moment où les autres arbres perdent leurs feuilles. Les Romains, donc on l'a vu pendant les Saturnales, décoraient leurs maisons de feuillage, de houx, de lierre et parfois même de sapin. Et on trouve la trace dans certaines premières tribus germaniques, donc de célébration de Yule, de sacrifices d'animaux et d'esclaves, mâles, que l'on accrochait aux branches des sapins. De là proviendrait cette tradition du sapin. L'Église chrétienne, réticente à cette tradition du sapin de Noël, l'associe effectivement au paganisme. Quand Saint Boniface convertit les populations germaniques, le culte de l'arbre est alors christianisé et admis petit à petit par l'Église, particulièrement à partir du Moyen-Âge. Et c'est à partir du XVIIIe siècle qu'il rencontre le succès que l'on lui connaît encore actuellement. La décoration du sapin, quant à elle, viendrait de l'adoration du dieu païen du Moyen-Orient qui se nomme Attis. Un sapin serait né de son sang lorsque, frappé de folie, ce dieu s'émascule. Le sapin coupé et décoré avec l'argent et l'or porte alors en son sommet l'emblème de la mort et de la renaissance d'Attis, une étoile à six pointes. Donc enfin, ce qu'on peut dire sur le sapin, le gui, le houx, le lierre, c'est qu'au-delà des mythes dans lesquels ils apparaissent, ils possèdent tous la même propriété, à savoir qu'ils reflètent la continuité de la vie et de la continuité de la nature à un moment de l'année où il n'y a plus grand-chose qui est vert. On va peut-être passer sur les lumières. Bon, peut-être dire deux mots sur les lumières et les bougies. On va voir que c'est assez récurrent dans toutes les fêtes. Et la signification est un peu aléatoire. Elles sont à la fois symboles de purification, elles sont à la fois symboles de protection. Ce qui est sûr, c'est que les lumières interviennent à des moments de l'année où il fait quand même fort nuit tôt et pendant longtemps. Donc, d'où l'importance de la lumière, mais qui n'est pas forcément associée à une mythologie particulière. Enfin, le dernier symbole qui est associé à Noël, c'est la bûche. Une coutume scandinave voulait que pendant les fêtes de Yule, excusez-moi, on aille chercher une énorme bûche de bois, que l'on la rapporte à la maison en grande pompe. Et donc, le soir de Yule, le maître de maison l'a placée dans l'âtre et procéder à des libations en arrosant le tronc d'huile, de sel, de vin cuit et en récitant des prières. Dans certaines familles, les jeunes filles de la maison allumaient cette bûche avec des tisons qui étaient conservés de l'année précédente. Dans notre famille, c'était plutôt la mère de famille qui avait ce privilège. Toujours est-il que le choix de l'essence du bois, les pratiques d'allumage, la durée de combustion étaient un véritable rituel qui pouvait varier selon les régions. Par la suite, donc, la bûche qu'on faisait brûler le soir de Yule, donc la toute première bûche, était gardée ensuite, merci, dans la maison afin de protéger la maisonnée jusqu'à l'hiver prochain. Cette tradition de la bûche qu'on place dans l'âtre de la maison et qu'on conserve encore pendant toute une année a perduré jusqu'à la fin du 19e siècle et sa disparition coïncide avec l'apparition progressive des poêles de petite taille, des poêles de fonte. La grosse bûche est alors remplacée par une petite bûche de bois, parfois rehaussée de chandelles et de verdure que l'on place au centre de la table comme décoration en fait. Et c'est ensuite qu'elle est devenue la pâtisserie traditionnelle que l'on connaît. On va passer maintenant à l'autre fête qui appartient au cycle de l'hiver, qui est l'Épiphanie. Donc l'Épiphanie est célébrée le premier dimanche de janvier. Donc le mot Épiphanie est issu du grec et signifie manifestation ou apparition. Cette fête commémore l'adoration de l'enfant Jésus par les rois mages, guidés jusqu'à Bethléem par une étoile. Les trois rois mages, synonymes de trois rois sages, symbolisent les trois âges de l'homme, ainsi que les trois couleurs de peau qui sont connues à l'époque, à savoir la peau noire, la peau arabe métissée et la peau blanche. Melchior, le plus âgé des trois, venait de Nubie et avait apporté l'or. Balthazar est connu pour avoir apporté la myrrhe. Quant à Gaspard, le plus jeune, il avait apporté l'encens. Les textes sont assez obscurs concernant ces personnages. L'évangile de Matthieu ne mentionne pas leur nom, mais ils sont représentés comme, je cite, de riches personnages. L'évangile de Luc ne parle pas des mages, par contre, il mentionne la visite de bergers. Finalement, les trois mages sont, l'histoire aidant, élevés au rang de roi. Je suis en train de m'assécher. Donc l'Épiphanie reprend une fête d'origine païenne durant laquelle on célébrait les Épiphanes, autrement dit Apollon le soleil, mais également les 11 autres dieux de l'Olympe qui sont Zeus, Athéna, Hermès, Héra, Poséidon, Déméter, Héphaïstos, Aphrodite, Arès, Artémis et Hestia. Il y en a bien 12. Mais au-delà d'une fête isolée qu'est les épiphanes, cette dernière prend tout son sens lorsque l'on l'étudie appartenant à un cycle de célébration de l'hiver, célébration païenne de la lumière qui atteignent leur apogée au moment du solstice. Durant la nuit du solstice, la plus longue de l'année, se manifeste l'espoir du retour à la lumière, sa renaissance qui sera à l'origine de toute chose. La célébration se prolonge alors durant un nombre de jours hautement symbolique, 12, représentant entre autres la totalité. 12, on retrouve 12 dans le nombre de dieux de l'Olympe, il y a 12 dieux olympiens comme il y a 12 dieux germaniques apparentés à Odin, on retrouve 12 mois, 12 heures, etc. etc. Donc le chiffre 12, le nombre 12 est assez symbolique et important. Donc le cycle de ces célébrations du solstice grec prenait fin donc le 6 janvier, au moment où les jours commencent à s'allonger de façon sensible et que la promesse de la nuit solsticiale, c'est-à-dire l'éternel, le retour du soleil à venir, est tenue. En outre, le 6 janvier, on célébrait également un jour important à Rome et en Égypte, on l'a vu, en matrice de fête orientale. Donc, petit rappel, Isis, qui a pleuré son mari Osiris au moment de Toussaint, le 6 janvier, se réjouit parce que son fils Horus naît, en fait. Donc là aussi, on a un rappel de cette mythologie. Et il est intéressant de rappeler qu'Horus est appelé soleil naissant. Parmi les symboles de l'épiphanie, évidemment, la galette des rois. Donc l'origine de cette tradition se trouve chez les Romains. Lors de la commémoration des Saturnales, donc fête à l'envers dont on a parlé il y a quelques minutes, les Romains partageaient déjà un grand gâteau rond et doré comme le soleil. Dans ce dernier était cachée une fève et celui qui la trouvait était élu roi de la fête. C'est aux chanoines du chapitre de Besançon que l'on doit la perpétuation de cette tradition. Au XVIe siècle, pour choisir effectivement le maître du chapitre, ils avaient pris l'habitude, à chaque épiphanie, de le tirer au sort en mettant une pièce dans un pain. Puis, péché de gourmandise aidant, les chanoines ne tardèrent pas à remplacer le pain par une brioche. Cette pratique se popularise et un différend oppose alors les corporations de boulangers et de pâtissiers qui voulaient chacun obtenir le monopole de la fabrication du gâteau symbolique de l'épiphanie. Et c'est ainsi que les boulangers inventèrent la fameuse galette qu'on connaît actuellement. Autre symbole qui est associé à l'épiphanie, c'est bien entendu la fève. Il semble que ce soit dans l'Antiquité que les premières traces d'une tradition de la fête de la fève soient apparues. Il ne faut pas oublier que cette légumineuse, assimilable aussi bien en farine qu'en cuisson, était la base de l'alimentation des peuples bien avant l'arrivée de la pomme de terre. Et donc elle avait plusieurs symboliques qui lui étaient associées, qui s'opposent parfois. Donc la fève pour les anciens était le symbole de vie et de naissance. La graine de la fève et ses multiples enveloppes ont la forme d'un fœtus, si vous avez un peu d'imagination. Et lorsqu'elle pousse, les jardiniers le savent, on a l'impression que l'on voit, on voit apparaître le commencement d'une tête de bébé. Dans les cultes du printemps, la fève était vénérée comme aussi le premier don qui était fait aux hommes, puisque c'est un des premiers légumes qui apparaît au printemps. La fève était également un symbole divinatoire, puisque la cléromancie utilisait les dés, mais également les fèves pour prédire l'avenir. Et enfin, la fève était un symbole de mort, donc c'est là où je dis qu'elle est ambivalente dans sa symbolique, puisqu'à la fois c'est la vie et à la fois c'est la mort. Donc les Grecs, tout comme les Égyptiens anciens, pensaient que l'âme des morts résidait dans les fèves en attendant la résurrection. D'après Pline, la fève est employée dans le culte des morts parce qu'elle contient les âmes des morts. Et d'ailleurs, si l'on en croit la légende, Pythagore préféra se faire tuer au combat plutôt que de traverser un champ de fèves. Voilà pour tout ce qui est lié au symbole de la fève et son utilisation après coup dans l'épiphanie. On va passer maintenant à la partie un peu plus réjouissante de l'année, un peu plus lumineuse, avec les fêtes du printemps. Donc la première fête qu'on va évoquer, c'est la Chandeleur. La Chandeleur est célébrée le 2 février. donc son origine chrétienne, la chandeleur donc commémore la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem et évoque les relevailles de Marie 40 jours après la naissance de son enfant. Marie est juive et se conforme donc à la loi de Moïse qui dit que selon les rites hébraïques, la mère doit se rendre au temple avec son enfant nouveau-né afin qu'il soit présenté à Dieu. Cette fête fut instituée par les papes chrétiens pour se substituer à des fêtes païennes qui existaient alors et qui étaient à leurs yeux un peu trop osées. On va dire ça comme ça. Ainsi, la fête de la chandeleur est liée à la lumière, mais également à la purification, à la fécondité, à la prospérité, qui sont des thématiques toujours très proches dans les croyances et dans les traditions. On retrouve dans cette fête chrétienne un important héritage grec et romain, un mélange de plusieurs festivités. Donc, je ne dirai rien sur la fête de Proserpine, qui a également une date de célébration qui est en février. Et on va plutôt parler d'une fête qui se déroulait à Rome, qui était très importante, qui s'appelait les Lupercales ou Lupercalia. À l'origine, cette ancienne fête de bergers était célébrée le 15 février. Elle avait lieu en l'honneur du dieu Faunus, révéré aussi sous le nom de Lupercus. Son but principal était d'assurer la fertilité des champs, des troupeaux, du peuple et d'écarter les loups, lupis, donc on retrouve l'étymologie dans Lupercal évidemment, de la communauté des Romains. Les célébrants se rassemblaient au Lupercal, grotte sur le mont Palatin, où Romulus et Rémus avaient-on, selon la légende, été nourris par une louve. Les prêtres, donc les Luperques, y sacrifiaient des boucs, des chèvres et un chien. Et des jeunes gens de bonne naissance, de familles nobles, étaient ensuite barbouillés du sang de ce sacrifice, mais également de lait. Et ensuite parcouraient nus, complètement nus, d'où le côté un petit peu osé au regard de la chrétienté, des premiers chrétiens. Donc ces hommes nus couraient dans la ville de Rome, en frappant avec les lanières avec les peaux des animaux qui avaient été sacrifiés, donc les lanières, toutes les personnes qui se plaçaient sur leur chemin, et notamment les femmes qui se plaçaient d'elles-mêmes sur la trajectoire de ces jeunes gens afin d'être rendues fécondes. Donc cet acte de courir est une purification symbolique du territoire, et les lanières, que l'on appelle donc les fébruas, étaient le moyen de purifier. Et c'est intéressant de voir que l'étymologie de fébrua a donné ensuite fébruarius, qui est l'ancêtre de notre mois de février. Cette cérémonie survit jusqu'à l'époque chrétienne et est finalement supprimée en 494, après notre ère donc, par Gélase Ier, qui choisit Valentin de Terni, plus connu sous le nom de Saint-Valentin, comme patron des amoureux. Donc là aussi, il y a quand même une idée de fécondité et de fertilité. Les Lupercales romaines tenaient par ailleurs leur origine des Lycaea grecques, donc il y a encore plus d'ancienneté dans cette fête, où on ne révérait pas le dieu Faunus, mais le dieu Pan. Donc, on retrouve également... on retrouve également un héritage celte dans cette fête. Il existe un rite lié à la purification donc, chez les Celtes. L'hiver tirant à sa fin en février, on célébrait la fête d'Embolc, le 1er février. Cette célébration est associée à la déesse du feu Brigitte, qui, selon certaines traditions, est enceinte de la semence du soleil. À l'arrivée du printemps, elle est prête à accoucher, mûre pour la promesse d'une nouvelle vie. Embolc signifie littéralement « in milk », donc pour les anglophones en lait, on va dire en lactation, et marque traditionnellement donc, la période de lactation qui vient dans l'attente d'un enfant. Fête donc de purification, de fertilité et de fécondité, Embolc symbolise les prémices du printemps, le retour de la lumière, mais également la gestation. Il est intéressant de noter que les chrétiens ont fait de Brigitte une hypothétique sainte Brigitte qui aurait assisté la Vierge Marie lors de son accouchement, sans se soucier toutefois de l'origine peu hébraïque de ce nom. Parmi les symboles qui sont associés à la chandeleur, on retrouve évidemment les crêpes. Tous les symboles qui jalonnent donc l'histoire de la chandeleur se retrouvent aujourd'hui dans la crêpe, disque doré qui rappelle aussi le soleil dont on commence à espérer le retour. Également, autre symbole, les chandelles, puisque le mot chandeleur vient étymologiquement de candela, qui signifie donc chandelle. Lors de la célébration de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, tout le monde porte des chandelles de cire afin de célébrer l'enfant lumière du monde. On l'a vu, l'utilisation de chandelles et plus généralement de lumière et de chaleur est un moyen également de purification et de prospérité. On va passer ensuite au cycle de Pâques, Mardi Gras, Carême et Pâques. Donc j'ai choisi de traiter ces moments de la vie chrétienne en une seule et même partie, tant ils sont liés, les uns prenant leur sens par l'existence des autres. Donc Pâques est une fête mobile entre le 22 mars, qui est donc célébrée entre le 22 mars et le 25 avril. Le Carême est la période de 40 jours avant Pâques, et le Mardi Gras est le dernier mardi avant le début du Carême. La fête de Pâques commémore la passion et surtout la résurrection du Christ. Selon la Bible, par sa mort et sa résurrection, Jésus libère l'homme de l'esclavage, du péché et de la mort. Selon les Écritures, il fut arrêté le soir de la Pâque juive, après avoir célébré avec ses disciples le repas que l'on nomme la scène. Pâques est précédée donc du carême, on l'a dit, carême qui vient du latin quadragesima, qui signifie 40e jour. Et désigne évidemment la période de 40 jours avant Pâques qui est consacrée aux jeûnes, à l'instar de Jésus retiré dans le désert. Mardi Gras, quant à lui, est le dernier mardi avant le carême. Il est associé au carnaval, dérivé de l'expression latine carnem levare, c'est-à-dire renoncer à la viande. C'est le dernier jour où l'on mange gras avant la période d'abstinence. Tandis que le carême fait appel à la spiritualité de l'homme, un contrôle en fait en quelque sorte, le carnaval lui s'adresse à son être charnel, pétri d'instinct et de passion. Donc les différents héritages, s'il s'en est démarqué par la suite, il ne faut pas oublier que le christianisme est né dans le judaïsme. Il en a conservé une série de rites et de fêtes, et les fêtes mobiles sont notamment dues aux particularités du calendrier juif. Ainsi, la fête de Pâques chrétienne est de toute évidence une émanation de la Pâque juive appelée Pessah. Cette fête juive commémore elle aussi une libération et une renaissance, celle du peuple juif qui subissait alors l'esclavage en Égypte. Dans la Torah, Dieu annonce que le 10e fléau va frapper les Égyptiens. Moïse alors ordonne à chaque famille juive d'immoler la Pâque, c'est-à-dire de sacrifier un agneau et avec son sang d'embadigeonner les montants et le linteau des portes, signe qui permettra alors à Dieu de reconnaître et d'épargner les Hébreux qui pourront ensuite fuir l'Égypte. Au premier temps du christianisme, les fidèles continuaient à suivre les coutumes juives tout en donnant aux fêtes une signification nouvelle. Ainsi, l'immolation de l'agneau devenait le symbole du sacrifice de Jésus et son sang versé, non pas pour le peuple juif, mais pour l'ensemble des hommes. Et c'est à partir du IVe siècle que les différentes communautés chrétiennes instaurèrent des rites propres, ceux que nous connaissons encore actuellement. On retrouve également des racines plus anciennes de cette fête chez les peuples nomades, dont la vie était liée intrinsèquement au rythme de la nature. Ils fêtaient l'agnelage au printemps par une célébration familiale qui avait lieu une nuit de pleine lune. Le père de famille accomplissait alors le rite du sang, l'immolation d'un agneau âgé d'un an, dont le sang servait à oindre les montants de l'entrée de la tente afin de s'assurer la protection de la demeure et de ses habitants par rapport aux forces hostiles de la nature. Il existe encore de nombreux autres héritages que j'ai étudiés au fil de mes lectures, mais il serait fastidieux de tous les énumérer ici, puis je vois que le chrono avance. Comme nous l'avons vu, les Lupercales ou pour Imbolc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans toutes les régions du globe qui ont un climat au rythme différent, l'homme fête le réveil de la nature et illustre par des rites la lutte du printemps contre l'hiver, la lutte de la lumière contre les ténèbres. Dans un autre registre, il existe aussi des mythes retraçant la résurrection de jeunes et beaux dieux. Ainsi, dans la mythologie phénicienne, donc la Syrie actuelle, Adonis, né d'un arbre, était si beau que la déesse Aphrodite s'en éprit. Tué dans un accident de chasse, il fut ressuscité par ses larmes. Un mythe très semblable nous vient de Phrygie, donc en Asie mineure, et concerne Attis, né d'une amande, et considéré comme le dieu de la végétation. tué par un sanglier, il a été ressuscité par Cybèle, mère de tous les dieux. Les fêtes donc de Cybèle et d'Attis furent adoptées par les Romains et incorporées à leurs fêtes de printemps. On y mimait alors l'enterrement d'Attis, on le pleurait en hommage au chagrin de Cybèle et on jeûnait. Le 25 mars, le dieu se relevait et ses fidèles se laissaient alors aller à la joie. Le lendemain étaient pratiqués des baptêmes avec le sang d'un taureau. Ce culte se serait répandu en Gaule et en Germanie sous l'occupation romaine. Enfin, le carnaval a lui aussi des origines anciennes et fort diverses. Pour les anciennes, donc, l'année débutait non pas en janvier, mais en mars. Or, avant toute nouvelle création, avant toute nouvelle année, le monde devait retourner au chaos primordial pour se ressourcer. Ce chaos passait alors par le renversement des normes du groupe. On lève l'interdit alimentaire qui pèse sur une société qui est tournée vers la survie, voire la privation. On ripaille en prévision de l'arrivée des beaux jours. On lève l'interdit également social en raillant toutes les hiérarchies et en permettant l'inversion des rôles. Ce qu'on a dit, ce sont les fêtes à l'envers. Ainsi, on utilise des masques et du maquillage, non pas pour faire disparaître, disparaître toutes les individualités, permettant encore plus de confusion et encore plus de chaos. Donc, en cela, les Lupercales, le carnaval, est une survivance des Lupercales et des Bacchanales, et également des Saturnales romaines, mais également des fêtes en l'honneur de Dionysos. Des fêtes d'Isis en Égypte, de la fête de l'ours chez les Celtes ou de la fête des sorts, appelée Pourim chez les Hébreux. Négation du quotidien, affranchie des règles et des contraintes morales et sociales, ces fêtes du chaos se terminaient très souvent par le feu purificateur qui ramenait l'ordre. Donc parmi les symboles, je vois que le temps défile, alors je vais peut-être me consacrer au plus important. Parmi donc les symboles de Pâques, on a l'œuf. De nombreuses fêtes païennes célébraient la résurrection de la nature symbolisée par l'œuf, porteur d'un germe de vie, de renouveau et de fécondité. Il faut dire que l'œuf est un symbole qui dépasse largement notre civilisation. Pour les Égyptiens, les Grecs, les Phéniciens, les Tibétains, les Indiens, les Vietnamiens, les Chinois, les Japonais ou encore les Indonésiens, et je suis certaine d'en oublier, le monde naît d'un œuf. Dans la mythologie finlandaise, c'est un œuf d'or qui, en se brisant, donne naissance au ciel, à la terre et aux astres. Il n'est donc pas étonnant que l'on le retrouve pour célébrer le renouveau du printemps. L'introduction des œufs dans les coutumes pascales daterait du XIIe siècle et les premiers textes y faisant allusion en Europe datent du XVe siècle. Cette coutume viendrait des symboles et des vertus associées aux œufs. Mais plus pragmatiquement, c'est très probablement l'interdiction faite par l'Église jusqu'au XVIIe siècle de consommer des œufs pendant le carême, qui est également la période de ponte maximale des poules, qui fait que ça devient un emblème de Pâques. Effectivement, au moment de Pâques, après 40 jours de carême, il fallait couler les stocks, très pragmatiquement. Quant à la décoration des œufs, elle est elle aussi ancienne, puisque les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de les teindre aux couleurs du printemps et de se les échanger avec leurs proches pour symboliser le renouveau de la vie. Autre symbole de Pâques, le lapin, par exemple. Je ne vais pas tous les dire, parce que j'en ai plusieurs. Donc le lapin est un animal emblématique, et c'est l'animal emblématique de la déesse celte qui s'appelle Éastre, et qui a ensuite donné son nom aux fêtes de Pâques en anglais, qui se disent Easter. Donc on a simplement interverti les lettres. Et donc cette déesse est restée associée aux fêtes de Pâques, et on la retrouve dans les traditions celtiques scandinaves, puisque le lapin est le symbole en quelque sorte de la déesse mère pour les Celtes et pour les Scandinaves. Enfin, et le dernier, on va conclure, l'agneau. Dans l'iconographie chrétienne, l'agneau est le symbole du Christ dont il évoque le sacrifice. Dans les diverses civilisations méditerranéennes, le début du printemps est marqué, on l'a vu, donc, par le sacrifice d'un jeune agneau, offrande assurant le salut du groupe, des individus, et également assurant la fécondité des troupeaux. Donc voilà pour tous les symboles qui étaient liés à ce cycle de Pâques. Donc, par ces quelques exemples, je peux dire, à l'instar d'Anaxagore, que rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes finalement se combinent. La plupart du temps, nous l'avons vu, l'Église a gardé le sens saisonnier, les symboles des fêtes païennes préexistantes, se contentant de leur donner une signification nouvelle. Toutefois, le degré et le mode d'acculturation de ces religions ont différé selon les circonstances et la résistance qu'elles ont opposée au christianisme. Si certaines traditions et coutumes ont pu être extirpées, d'autres ont perduré sous une forme différente, on l'a vu, j'espère, ce soir. Donc il serait également intéressant d'étendre cette approche aux sanctuaires qui ont connu les mêmes transformations. Donc les lieux de culte anciens ont parfois été détruits, parfois été supplantés par des constructions chrétiennes nouvelles. Parfois on a des réaménagements qui se sont faits et on a simplement investi des lieux qui étaient fréquentés anciennement d'un sens nouveau. De ce rapide tour d'horizon, il reste que ce que les chrétiens ont appelé paganisme était en fait simplement un mode d'appréhension du sacré ou du divin à travers finalement un prisme purement naturel. Donc ce paganisme composé de rites et de symboles n'obligeait pas à la foi, adhésion intime et personnelle de chacun. Il y avait une série de récits mythiques, légendaires sur les dieux et les héros. Chacun était libre d'y croire ou de ne pas y croire, ça importait finalement peu. Ce qui importait à l'époque, c'était le respect d'un rituel qui accompagnait les différentes étapes de la vie. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Certains éléments que Cécile n'a peut-être pas évoqués, vu qu'elle a.
Si je peux.
Voilà, oh, mais c'est certain que je vais pouvoir. Qui donne la première question? Monsieur?
D'abord, je veux remercier l'intervenante pour la qualité de son travail. Et puis, je voudrais l'interroger sur trois choses. Jésus. Peut-être que Jésus existe aussi dans la religion islamique. Or, les musulmans ne fêtent pas Noël. Donc, question. Why? Deuxième question. En 1905, il y a eu une séparation entre l'Église et l'État. Et donc, vous avez dit qu'il y avait récupération religieuse, quelquefois des fins politiques. Comment expliquer une république laïque indivisible aujourd'hui accepte que dans le calendrier scolaire figurent des fêtes religieuses qui permettent aux enfants de partir en vacances? Je me résumerai ces deux
questions. Wow. Oui. Je pense qu'on dépasse le cadre de mes fêtes païennes récupérées. Oui. Je ne vais pas me lancer dans le débat sur la laïcité parce que je pense que voilà, ce n'est pas forcément mon propos ce soir. Je suis désolée. On peut en discuter après tous les deux si vous le souhaitez. Je suis assez à l'aise.
De la récupération politique.
La récupération politique, elle existe de tout temps, même à l'époque même à l'époque où on avait des mythologies. À chaque moment, évidemment, le pouvoir en place s'est servi de ces religions pour asseoir aussi un petit peu son autorité. Donc, effectivement, chaque fois qu'on retrouve de la religion, on retrouve une institution politique, une institution religieuse qui cadre un petit peu les propos. La grosse différence qu'on a sur des religions païennes, comme je le dis dans ma conclusion, c'est que finalement, la religion personnelle est très personnel là pour le coup, puisqu'on croit à certains dieux, on adule certains dieux, certains récits mythologiques, mais on n'est pas obligé d'adhérer à tout. Donc on se conforme selon la volonté de l'institution aux rites qui sont mis en place. Là on a le devoir d'y être présent, mais finalement la foi personnelle elle reste très intime. Après voilà, aussi loin qu'on ait une religion, on a aussi la récupération ou l'utilisation politique de cette religion.
Merci Cécile. Autre question ? Oui, monsieur ?
J'ai entendu dire que le Père Noël avait remplacé Saint-Nicolas.
Oui, en quelque sorte.
Non, Saint-Nicolas à Lorraine.
Oui, voilà, ça dépend des lieux, effectivement.
Ici, c'est le supermarché, c'est Père Noël. En Lorraine, c'est Saint-Nicolas.
C'est Saint-Nicolas, oui. Sinterklaas est aussi également très présent dans les Pays-Bas. Le Père Noël apparaît plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, avant la Seconde Guerre mondiale, on célébrait plutôt...
Saint-Nicolas, c'est aujourd'hui.
Oui.
Et oui, c'est aujourd'hui, c'est pour ça que l'on
le... Oui, mais on fête aussi le Père Noël en Lorraine.
Ils font les deux,
oui.
Ah.
Parce que c'est commercial.
Donc, une double fête.
Oui, en Lorraine, effectivement, c'est très, très présent. Et en Hollande aussi, oui.
Sinterklaas. Madame ?
Et on retrouve un ancêtre, j'en ai pas parlé aussi, du père Fouettard dans le mythe, dans les récits mythiques germaniques accompagnés d'Odin. Voilà, j'ai plus le nom, mais ça vient de Germanie.
Mais vous parlez de la pérennité, du maintien des rites païens. Dans le Berry, il n'y a pas très longtemps encore, le jour des Brandes, il y avait encore les réunions de Birette et de Stutzow. Ça se faisait encore, je crois que ça se fait encore maintenant.
Je crois pas qu'on a entendu, effectivement.
Je disais que dans le Berry, encore, il n'y a pas très longtemps, et je crois encore même maintenant, le jour de la Chandeleur, on fête les Brandes, et là, ce sont des réunions de Birette, c'est-à-dire de sorcières, et de Stutzow. Les Stutzow, c'est les sorciers, les jeteuses de sorts.
De la même façon, il y a des différents régionalismes. En Bretagne également, on fête encore certaines... Il y a un renouveau en plus autour de ça, des fêtes celtiques. Donc oui, on assiste régionalement à certains revivals, on va dire.
Bernard, tu voulais poser une question ?
Oui, éventuellement, une question. Apparemment, l'Église catholique, dès les premiers siècles, a voulu, du moins certains, interdire la récupération des rites païens, semble-t-il. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a eu des schismes, des conciles,
Je ne saurais pas précisément. Dans toutes mes lectures, ça s'est plutôt fait progressivement par acculturation progressive et on enseigne aux générations suivantes, etc. etc. Je t'avoue que je ne vais pas avoir de texte bien précis. Je suis qu'une pauvre... voilà, c'est le fruit de lecture. Je ne suis vraiment pas spécialiste de tout ce qui est texte... chrétien.
Autre point à soulever, monsieur ?
Est-ce que vous auriez pu faire le même travail avec la religion musulmane, par exemple ?
Alors, c'est des religions que je connais beaucoup moins bien, peut-être, mais je vous avoue que je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est probable, puisque je suis plutôt partisane du fait que rien ne naît par hasard et que ce sont simplement des transformations qui sont...
Il n'y a pas de saint.
Il n'y a pas de saint, effectivement. Donc, on peut-être sur certaines célébrations musulmanes retrouver des équivalents païens.
La fête du mouton.
Je n'ai pas assez creusé le sujet.
Ce sera pour une prochaine conférence dans un an ou deux ans. Alors. Donc, ça y est, nous avons une piste nouvelle.
Le ramadan, dont la date est calée par rapport à la lune, la fête du mouton qui marque la fin du ramadan et qui marque les 40 jours après la fin du ramadan. On peut rapprocher ça des autres. Oui, hein.
Ah, si tu veux parler, on n'entend pas au fond ce que tu as dit là.
Bon, je disais simplement, sans être un spécialiste du Coran, qu'il y a quand même dans le monde musulman des fêtes qui ressemblent étrangement à certaines des fêtes qu'on a évoquées tout à l'heure. Je pense notamment à la fête du mouton qui marque la fin du ramadan, où on immole un mouton qui est ensuite partagé entre tout le monde. Donc c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est le même animal, ce qui n'est pas très surprenant puisqu'on est dans le monde oriental, que ce soit aussi bien dans le monde juif ou dans le monde hébraïque plutôt. Soyons calmes. Ou dans le monde musulman, on élevait des moutons et des chameaux. On n'élevait pas des bœufs, des vaches. Donc on sacrifiait et on consommait l'animal qu'on élevait, tout simplement.
Oui, pardon, quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, madame.
On se sert de l'agneau.
D'accord.
Trois religions sont très liées.
D'accord.
C'est pour ça qu'il... Ouais. Vraisemblablement, je pense qu'on peut retrouver certains éléments et certaines...
Au niveau des symboles.
Ouais, ouais. Certains symboles et certaines...
Mais vous avez évoqué des célébrations qui se passent, notamment par rapport aux symboles, qui se passent à différents endroits du monde, quand vous avez parlé de l'œuf, entre autres. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu à Madagascar la fête, une fête pendant laquelle on ouvre les tombes pour que les morts participent à la fête. On sort les ossements des morts de chaque famille, on leur fait faire le tour du village, et ensuite ils sont installés pendant qu'on fait le grand banquet, et on les réenterre le lendemain.
Et ça, dans ça correspond. Différentes peuplades.
Ah oui. Mais c'est à Madagascar, c'est pas en Europe du Nord ou chez les Celtes.
Il y a des symboles qui dépassent les continents et les cultures. Je n'ai pas parlé de la cloche. La cloche, elle a une symbolique ici en Occident, mais chez les bouddhistes, elle est aussi très importante. Ouais. Enfin, il y a des éléments comme ça qui dépassent et qui transcendent et les religions et les continents, je pense. L'œuf en fait partie.
Question ?
La réflexion de certaines fêtes païennes sur les évolutions, est-ce qu'on pourrait trouver des similitudes aussi avec tout ce qui est l'aspect du chamanisme? Parce que là, on a parlé des Celtes, on a parlé des peuples de l'Orient. Or, d'une manière identique, si on remonte au-delà de la Russie, vers le Cercle, on retrouve le chamanisme. Donc, quels ont été les abandons, les corrélations? Et quel est le passage, si toutefois il y en a un, sur l'histoire de la médecine? Parce que là, dans les faits, on parle de la vie de la mort, je parle pas du tout l'aspect de médecine, alors que les chamans, eux, basent sur certains rites, la guérison, une approche médicale. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que. Oui, mais qui le souvient ça?
À ma connaissance, je ne connais pas d'ouvrage qui ait fait ces rapprochements-là. Mais effectivement, c'est un de mes sujets là, en ce moment de prédilection, puisque bon, au-delà de donner cette conférence ce soir, je travaille donc pour des sites touristiques ariégeois, et notamment des sites préhistoriques, et notamment la grotte de Niou. Donc il y a parmi les grands préhistoriens, le grand préhistorien qui est Jean Clotte, affirme, ou en tout cas propose la piste de lecture et d'interprétation, que les dessins préhistoriques seraient en lien avec le chamanisme. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant, au-delà des mythologies antiques, donc on est sur finalement un temps assez récent, en comparaison des dessins de Niou qui datent d'il y a 14 000 ans, de voir s'il n'y a pas quelques survivances. Mais à ma connaissance, à part des déductions purement personnelles que je ne m'hasarderai même pas à vous faire partager ce soir, je ne connais personne qui a travaillé là-dessus. Mais effectivement, c'est des parallèles qui peuvent être très intéressants.
Quand vous parliez de récupération commerciale, une chose, quand on voit la sage-femme, alors laquelle le combat calvaire, et qu'on se rappelle qu'au début du siècle dernier, les remèdes, c'était des remèdes de bonnes femmes, juste dans l'expression populaire, la cuisine de la grand-mère, ou autre.
Bonne femme, c'est pas ça, hein. Bonne réputation, bon affama, hein. Bon, mais bon. Je pense qu'autour du saucisson, vous pourrez continuer à parler. Là. Alors, justement, comme je viens de parler de saucisson, je vais peut-être faire la transition vers l'après-conférence.
Non, vers la prochaine, voilà. D'abord la prochaine.
Alors, on va continuer à remercier Cécile en applaudissant. Et puis, je vais vous donner deux annonces. Merci beaucoup, Cécile.